Terre, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'emploi et le chômage dans les banlieues françaises. À une soixantaine de jours du premier tour de la présidentielle, le sujet est remarquablement absent des débats. Il faut dire qu'il est moins spectaculaire que les émeutes et les échauffourées de ces dernières nuits, sur lesquelles les candidats se sont longuement exprimés sous l'angle sécuritaire et policier. Des déclarations légitimes évidemment, mais peu ou pas de propositions pour régler le problème endémique, ancien, documenté du chômage dans les quartiers. Alors vos questions, vos témoignages aussi, nos invités peuvent vous donner des conseils utiles si vous rencontrez des difficultés à entrer dans le marché du travail parce que vous venez ou vivez dans ces quartiers. Si vous êtes employeur également, nous sommes désireux de vous entendre. On est ensemble jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr, le standard 01 45 24 7000. Je salue Charas qui ouvre les débats. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, monsieur Demorand. Je vous appelle pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je suis effaré, effectivement, moi aussi, par de la part des politiques, par leur manque d'ambition s'agissant de l'emploi dans les banlieues. Et comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure, on parle davantage de la banlieue en termes de sécurité, mais l'insécurité dans les banlieues, c'est une des causes, d'accord, c'est symptomatique. Le véritable problème, c'est celui de l'emploi. Et là, il y a un manque d'ambition absolument évident. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, quand il y avait un petit peu d'argent dans les caisses, donc on parlait de l'emploi dans les banlieues, mais sous la forme de l'emploi aidé. Donc la carrière en banlieue, c'était le territoire, le territorial, le fonctionnaire territorial. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas parce que, bien évidemment, la bourse, ben, elle s'est épuisée et il n'y a plus rien du tout. Et ce que je constate à partir de là, où là, les chefs d'entreprise qui auraient dû, en principe, rebondir, c'est-à-dire se mettre derrière les hommes politiques dans les années 2000 pour intégrer les jeunes, parce que vraiment, les ressources, elles sont là, les potentiels, ils sont là. La créativité, le génie en banlieue, il n'y a rien à dire, il existe. Eh bien, les chefs d'entreprise n'ont pas joué le jeu. Ils sont tout simplement, pour les plus gros d'entre eux, ils ont pris toutes les aides, ce qui veut dire que des grosses marques, que je ne citerai pas, ont pris les aides, ont eu des salariés à bon prix, vraiment à bon prix. Elles n'ont pas payé les charges sociales. Mais par contre, une fois que il a fallu payer, donc elles foutaient les gars dehors. Et les autres chefs d'entreprise n'ont pas rebondi derrière et n'ont absolument pas ambitionné quoi que ce soit pour la jeunesse en banlieue, pour lui permettre de s'intégrer, pour lui permettre donc de pouvoir vivre comme ce à quoi ils aspiraient, c'est-à-dire une vie de famille, construire leur maison et avoir des enfants et puis être à fond dedans. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, Charas, vous nous appelez de Créteil, vous semblez très bien connaître le sujet. Vous y avez été confronté vous-même ?
Alors moi, je suis écrivain public, donc depuis quelques années, ça fait une vingtaine d'années que j'exerce cette profession. Auparavant, on ne la connaissait pas. Maintenant, elle se connaît davantage parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir les écrivains publics pour faire des CV, pour faire des lettres de motivation, pour faire des contestations, etc. Moi, avant, j'avais une clientèle qui était quand même assez âgée. C'était des gens qui ne savaient pas atteints par la... qui ne savaient pas écrire le français, qui ne savaient pas... Bon, mais maintenant, j'ai des jeunes qui ont des masters, vous vous rendez compte, des masters qui viennent me voir et qui me disent, Charaf, comment on pourrait faire pour essayer de tourner une lettre de manière à être attrayant vis-à-vis d'une entreprise.
Alors, dites-nous, parce que c'est très intéressant et on est au cœur du problème, comment vous tournez ces lettres ? Qu'est-ce que vous n'écrivez pas ? Qu'est-ce qu'il faut éviter ?
La vérité, ce que je fais ressortir, c'est... Moi, c'est, je ne cherche pas à tricher. C'est ce que je dis aux jeunes, ne cherchez pas à tricher, mais je leur dis, dites ce que vous êtes... ce que vous êtes réellement et ce que vous voulez faire. Et je me dis, et je dis aux chefs d'entreprise, quand j'en rencontre, puisque je suis quand même un militant politique, mais allez-y, n'hésitez pas. Mais ce que je dis, c'est parce que je l'ai fait pour moi-même. Je m'appelle Charaf, vous avez dit mon prénom tout à l'heure. Moi aussi, je suis issu de l'immigration. Et il est arrivé un moment donné où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Combien de temps je vais encore pouvoir compter sur les autres ? Et je me suis lancé. J'ai dit, je vais démarrer petit et je vais essayer de faire mon trou. Je vais faire ma place. Mmh. Et moi, j'ai choisi ce chemin-là. Mais il y a des tas d'autres, non, qui ont des métiers, qui ne peuvent pas travailler en libéral comme je travaille moi, ou travailler en association avec les municipalités, dans le cadre de permanence et en faisant payer ses prestations. Bon.
Merci.
Eux, ils ont besoin des entreprises. Et moi, je dis aux entreprises, allez-y, foncez.
on ne doit pas tout attendre des politiques, c'est bon. Les politiques, c'est les impôts, les emplois, ce sont les emplois aidés, ce sont les impôts des gens. Il faut y aller avec l'argent, et il existe, allez-y, foncez. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils perdent, en vérité. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils perdent.
Merci, Charas. Merci beaucoup d'être intervenu si longuement, si précisément, pour ouvrir ce téléphone sonne. Et pour poursuivre le dialogue, nous sommes ici en studio avec Yannick Lorty. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, directeur de la Fédération de recherche du CNRS, intitulé « Travail, emploi et politique publique ». Jean-Claude Legrand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la diversité pour le groupe L'Oréal. Expliquez-nous ce que c'est que ce poste.
Ça consiste à ce qu'est expliqué votre auditeur précédent, c'est-à-dire qu'effectivement, comme une grande entreprise comme la nôtre, assumer ses responsabilités et effectivement accompagner, former, préparer, employer des gens en France en 2017 en banlieue. Je prends juste un exemple parce que c'est au cœur de l'actualité. L'Oréal est implanté à Aulnay-sous-Bois depuis 1961. On emploie 1200 personnes à peu près. Plus de 6% viennent d'Aulnay. Et plus de 25% viennent du 93. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres, mais je pense que ce débat est très intéressant. Vous avez bien raison de le mettre au cœur de la question aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis venu. Hein, parce que tout le monde va dire, une grande entreprise en plus, L'Oréal, qu'est-ce que je ne vais pas entendre? Moi, je suis prêt à dialoguer, à expliquer surtout ce qu'on fait, les initiatives qu'on prend depuis maintenant 30, 40 ans, qui sont loin d'être des échecs.
Merci donc d'avoir accepté notre invitation, Jean-Claude Legrand. On termine le tour de table avec Erwan Kézar. Bonsoir.
Bonsoir.
Co-fondateur de l'école Simplon. En quelques mots, Simplon, c'est quoi?
En quelques mots, le numérique est partout aujourd'hui. Pour construire ce numérique, Internet, ce web, ces sites, ces applis, il faut des gens compétents pour faire ça. Et nous, on forme ces gens compétents-là. Et ça a pour particularité que c'est une formation intensive en 6 mois, une formation gratuite pour les stagiaires, pour les apprenants, et une formation ouverte à tout public, mais en particulier à des profils qui sont ou demandeurs d'emploi, ou peu diplômés, ou pas diplômés, ou originaires de quartiers prioritaires, de zones rurales, des personnes réfugiées, avec un objectif de parité homme-femme très marqué.
Quartier populaire, pour quelle raison? Ça, c'est vraiment dans les statuts ou dans l'ADN de l'école Simplon. Vous avez une politique délibérée en direction des quartiers, c'est ça, hein?
Absolument, cette volonté sociale, de toute façon, globalement, vient de nos expériences associatives, de notre volonté de faire du numérique un véritable levier d'insertion professionnelle, d'inclusion sociale, de cohésion sociale, et aussi de nos vécus respectifs, en fait. On est deux cofondateurs, vient d'origine modeste.
Alors, Yannick Lorty, le premier rappel, celui de Charas, décrivait de manière pure et parfaite la situation. Comme économiste, vous validez l'analyse qu'il a faite?
Il y aurait plusieurs choses à dire, mais on peut quand même souligner le fait que depuis maintenant une trentaine d'années, disons, des politiques publiques se sont déployées à destination des quartiers dits prioritaires. Et la situation de ces quartiers, c'est de façon parallèle, les problèmes se sont approfondis, alors même que la puissance publique, disons, déployait des moyens de plus en plus importants à destination de ces quartiers.
Comment expliquer le paradoxe? De plus en plus de moyens et des problèmes qui s'approfondissent en parallèle.
Alors, moi je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir des politiques territoriales. On doit effectivement avoir des politiques territoriales parce que il y a des problèmes qui sont localisés dans des quartiers bien, bien spécifiques. Mais en même temps, sans doute les politiques territoriales qu'on met en œuvre ne sont pas les bonnes. Et il faudrait réfléchir peut-être à un redéploiement de ces politiques vers d'autres destinations. Pour aller très vite, les quartiers souffrent de problèmes à la fois de distance à l'emploi et parfois de localisation, et les personnes qui sont dans ces quartiers sont éloignées de l'emploi, et donc on peut souhaiter faire des politiques uniquement territoriales, ou bien souhaiter aussi équiper davantage les personnes, par exemple en favorisant leur mobilité. Et aujourd'hui, on a surtout favorisé la mobilité, peut-être tenté de favoriser la mobilité des entreprises pour s'implanter dans les quartiers, à coup de subventions et d'exonérations, alors que peut-être qu'avec des moyens analogues, on aurait pu favoriser la mobilité des personnes, sous toutes ses formes, mobilité géographique, résidentielle, mobilité professionnelle aussi, avec l'accès à l'emploi, l'accès à la formation.
Dans les quartiers prioritaires, le chômage est très substantiellement élevé par rapport à la moyenne nationale, Yannick Lorty.
Oui, alors... je dirais par construction, puisque ces quartiers sont identifiés sur une base de revenus fiscaux par habitant en écart à une norme, mais également tous les rapports successifs de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, par exemple, montrent que la situation dans ces quartiers s'est relativement davantage détériorée que la situation dans l'ensemble du marché du travail, qui s'est dégradée, on le sait, depuis maintenant près d'une dizaine d'années en France.
Alors Jean-Claude Legrand, L'Oréal fait quoi dans un paysage de cette nature, qui est un paysage tout particulièrement critique.
Alors, L'Oréal fait le plus de choses possibles. Moi, je pense que les actions qu'on essaye de mener, elles sont de plusieurs ordres. La première chose, surtout pour une entreprise comme la nôtre, c'est de s'assurer, hein, c'est une question qui est un peu revenue dans les propos de votre auditeur précédent, qu'on discrimine le moins possible, ou qu'on ne discrimine pas du tout, dans le processus de recrutement. Hein, et pour ça, ça passe par des formations. Si vous me demandez depuis...
Formation des recruteurs, donc.
Alors, formation des recruteurs, mais aussi formation de l'ensemble de nos collaborateurs. Hein, par exemple, si vous me demandez, moi, une des choses qu'on a, entre guillemets, le mieux faites ces dernières années, hein, j'ai le chiffre précis, on a formé 8435 personnes, et pas pendant une heure devant un ordinateur, c'est pendant une journée, à partager ses biais inconscients, à mettre sur la table ce que ça veut dire discriminer, être discriminé soi-même, faire des jeux de rôle, comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est une vraie question. Il faut pas la balayer en disant non, ça existe pas. Ça existe.
C'est quoi alors les formes les plus marquées, les plus patentes de discrimination à l'embauche?
À l'embauche, de toute façon, on a aussi beaucoup travaillé sur ça. Il est évident que quelqu'un qui vous envoie un CV avec écrit, donc par exemple chez L'Oréal, c'est pour ça qu'il y a plus d'adresses, mais un CV avec écrit Neuilly-sur-Seine ne veut pas dire la même chose que Neuilly-sur-Marne, parce que ça véhicule un imaginaire et les gens, immédiatement, ont ce biais. Nous avons tous des biais. La question, c'est pas de les nier, c'est de les reconnaître, de travailler dessus et d'essayer de les éviter. Donc, quand nous, en France, ça nous a fallu des années, mais on a formé 8500 personnes, on espère qu'ils auront un comportement exemplaire, remarquable. L'autre chose, et c'est de le faire avec des associations, par exemple avec SOS Racisme, qui est de s'assurer que des gens de l'extérieur viennent vérifier que nos processus ne sont pas discriminants. Hein, parce que c'est une chose de former, d'éduquer, puis ensuite, c'est de mesurer. Et c'est de se dire, oui, effectivement, donc, je vous donne un exemple concret. L'Oréal n'était pas une des entreprises qui, récemment, ayant subi des testings, a démontré qu'il y avait de la discrimination. Parce que, là encore, je le redis, il ne s'agit pas de nier le phénomène. Il s'agit tout simplement d'aller contre et de le contrarier. L'autre chose sur laquelle nous, on est extrêmement fiers, c'est des sourcings de candidats différents.
L'Oréal est... Expliquez-nous en français.
Oui, L'Oréal est une entreprise... très, entre guillemets, apprécié des étudiants de grandes écoles, universités. La question, c'est comment nous, on amène des gens qui n'ont pas vocation initiale à se dire Sciences Po Paris, c'est fait pour moi. Hein, moi, je pèse mes mots, mais quelqu'un comme Richard Descoings, ce qu'il a fait, et des années plus tard, c'est pour moi une forme d'héroïsme. Hein, c'est aujourd'hui...
C'est-à-dire d'ouvrir le recrutement de Sciences Po...
Qu'est-ce que cette initiative a pu être critiquée? Cette initiative a été formidablement reprise par Frédéric Mignon qui lui a succédé, et qui justement, comme trop souvent le cas, et c'est un des problèmes dont vous parliez tout à l'heure, monsieur le professeur, c'est que en France, quand il y a une bonne idée, hein, au lieu de la faire sienne et de la faire perdurer, on la réinvente. Hein, c'est un des drames de ce que nous, on ne veut plus. Hein, aujourd'hui, c'est comment on peut se succéder les uns les autres. Hein, c'est intéressant dans ce débat politique. C'est qu'est-ce que vont faire les autres quand ils vont remplacer les autres? Ben, surtout essayer de travailler ensemble et si une bonne idée marche. Et c'est ce qui a été très bien fait à Sciences Po. Aujourd'hui, c'est pratiquement 1700 gens qui, venant d'endroits où Sciences Po Paris, ça n'existait pas. Hein, c'est pour ça que je passe souvent d'Aulnay, parce que à Aulnay-sous-Bois, au lycée Jean Zay, quand il s'est pointé pour la première fois avec quelqu'un auquel je pense en ce moment, qui est Cyril Delay, qui ont présenté ça. Hein, moi, j'ai recruté un étudiant qui se reconnaîtra peut-être en parlant il y a plus de 10 ans. Il n'imaginait pas que ça marcherait. Donc, ils sont partis de 1, il y en a 1700. On pousse d'autres grandes écoles à le faire. Bon, ça, c'est des éléments fondamentaux du changement. Ça existe. Alors, on pourrait faire plus. Mais le mieux, c'est que ce soit les entreprises qui le fassent.
Erwan Kézar, et on retourne au standard.
Oui, cette question du biais, ça me fait réfléchir à la question précédente. En fait, je me dis qu'elle était incomplète, ma réponse. Pourquoi les quartiers prioritaires? Pourquoi est-ce que simplement on va chercher des profils qui auraient eu moins d'opportunités d'accès à la formation ou à des carrières à fort potentiel comme celle du numérique? Mais c'est aussi parce qu'on constate que dans toutes nos implantations, que ce soit Sarcelles, Aulnay, Montreuil, Marseille, même Saint-Gaudens, les zones rurales ont aussi beaucoup de quartiers prioritaires, mais en fait, nos profils performent souvent deux fois plus lorsqu'ils ont cette chance d'accéder à nouveau à une formation. Le tout, c'est de bien parler de sourcing, on parle aussi de sélection, c'est-à-dire bien amener les profils qu'on sensibilise en amont, qu'on préqualifie en amont, vers ce nouvel métier qu'est le numérique, et voir s'ils ont vraiment envie de faire ça. Après, il y a la question de l'insertion, et là c'est en train de bouger, c'est-à-dire que l'insertion, quand on accompagne nos profils vers l'emploi, mais aussi quand on sensibilise les employeurs, par exemple en prenant des cadres dirigeants de grandes entreprises qui se prêtent au jeu de venir se faire former par nos élèves et qui se rendent compte que l'agilité, le numérique n'ont pas de secret pour eux et qu'ils ont des aptitudes incroyables, là on se dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Et actuellement, par exemple, là on a de grandes entreprises du numérique comme Accenture qui a recruté certains de nos élèves, notamment des élèves réfugiés statutaires, ou encore Capgemini, qui s'est engagé à recruter environ 10% de ses développeurs en 2017 parmi les élèves de la Grande École du Numérique, du programme de la Grande École du Numérique. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à faire ce qu'on
bien
fait.
Sûr. Simplement,
il y a aussi Web Academy, il y a aussi Tremplin Numérique, Pôle Solidaire qui fait ça très bien, et tout un tas de structures dans le cadre de Grande École du Numérique. Tout ça pour dire que notre biais, j'ai envie de dire que parfois, il est un peu inversé de notre côté. On se dit, tiens, cette personne, vu les performances qu'elle a eues au test d'auto-apprentissage, sachant que nos tests d'auto-apprentissage sont basés sur la motivation, il n'y a pas besoin d'avoir de base technique, c'est surtout être autonome, en vouloir, être motivé, s'accrocher. Eh ben, c'est peut-être parce que elle a moins eu la chance de faire des formations que d'autres personnes, qu'elle va s'accrocher encore plus fort, progresser encore plus fort et faire une d'autant plus belle carrière.
Jean, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question.
Je vous en prie. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Voilà, ma question est celle-ci. Il y a en France plus de 700 000 places dans l'artisanat, les métiers de bouche. Et il manque des gens pour ces métiers-là. Or, il existe en Europe une école qui est mondialement reconnue, qui a les meilleurs professeurs et qui a les meilleurs succès. C'est la fameuse école de Lausanne. Cette école forme les jeunes, à partir de 14 ans, à un métier qui développe évidemment le génie de la main. Hein, pour les enfants qui ne sont pas trop doués pour les études. Mais elle permet, lorsque ceux-ci ont acquis le substrat d'une formation technique qui va leur permettre de gagner leur vie, elle leur permet à ces jeunes de continuer de faire d'autres études qui rejoignent leurs idéaux. Leur formation, on pourrait dire, permet leur accès à une meilleure formation professionnelle, évidemment, d'atteindre d'autres niveaux. Et en même temps, leur offre une possibilité de faire des études vers leurs idéaux qui n'est pas celui de leur métier. Mmh. Voilà. Alors, je dis cette école parce que cette école, je crois qu'elle est connue, mais elle prend les meilleurs professeurs du monde. La promotion se fait sur les meilleurs professeurs signalés en Europe. Voilà. C'est une école extraordinaire et qui a un succès, et c'est à partir de 14 ans, bien sûr, ce qui permet à des enfants d'acquérir le rythme du travail assez tôt et évidemment de gagner très vite leur vie.
Merci voilà. Jean pour cette intervention. Vous nous appeliez de Seine-et-Marne. Jean-Claude Legrand, un mot sur l'école de Lausanne. Bon, c'est pas n'importe quelle école, hein.
Je pense que l'EHL, c'est la meilleure école d'hôtellerie du monde. Mais c'est effectivement, il se trouve que c'est extraordinaire parce que les métiers de l'hospitalité se développent et que c'est aussi une opportunité, bien sûr, pour accueillir des gens de quartiers moins favorisés. Mais moi, je reviens sur ce que tu as évoqué sur Simplon. Bien sûr que la chose la plus importante, là, et je réfléchissais, c'est comment on donne accès. C'est comment on tend la main. Et je reviens parce que si vous me demandiez aussi, je repense à, je voudrais citer une ou deux associations, notamment une association qui a été créée par aussi, pour moi, ce sont des gens-là, je suis désolé de le dire, je pèse mes mots, ce sont des héros. Quelqu'un comme Philippe Corda qui est parti de rien et qui a créé quelque chose qui s'appelle Énergie Jeune, qui lutte sur les décrocheurs. Et quand, par exemple, dans une entreprise comme L'Oréal, il y a 45 personnes sur des bases volontaires qui ont permis de toucher 3500 collégiens, qui vont dans des classes de 6e ou 3e et qui disent « c'est possible ». L'idée n'est pas de faire de la publicité, hein, je le redis, c'est de montrer qu'on peut accueillir en apprentissage, en stage, en job. Je reviens aussi sur tes usines d'Aulnay-sous-Bois. Hein, on a un site de recherche et une usine auquel on est extrêmement attaché. Mais c'est pareil à Clichy, qui est le siège de L'Oréal. Hein, parce que là, toutes nos implantations, et comme par hasard, elles sont en banlieue. Hein, elles sont à Saint-Ouen, elles sont à Clichy. Et moi, je pense que c'est pas un hasard. Hein, on vit tous de cet autre côté du périphérique. Et c'est une des choses que notre patron actuel, Jean-Paul Agon, nous a amené des États-Unis il y a une dizaine d'années, qui est de dire, c'est super tout ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites à Clichy? Qu'est-ce que vous faites à Aulnay? Et on a renforcé ces actions, et notamment en donnant accès à l'emploi aux gens qui habitent à côté de chez nous.
Yannick Lorty, on retourne au standard.
Oui, on peut se féliciter évidemment de l'existence d'un grand nombre de solutions innovantes en termes de formation accessible aux jeunes, potentiellement en tout cas. Mais il y a aussi un problème d'adéquation entre, disons, la masse de ces solutions, ces micro-solutions et la taille du problème lui-même. Chaque année en France, on sait qu'il y a de l'ordre de 100 à 150 000 jeunes qui sortent en situation d'échec du système scolaire, sans diplôme, quoi. Et on sait que le stock total des jeunes qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation est de l'ordre de 750 000 jeunes en France. Et donc, se pose la question aussi de qu'est-ce qu'on fait, en fait, à la fois pour le flux et pour le stock de jeunes. Et l'agrégation d'un grand nombre de solutions de qualité, hein, est sans doute une partie du problème.
Mais alors, il manque quoi? Il manque le levier de la puissance publique? Il manque quel type d'outil, alors? Si il y a une myriade de solutions dans le paysage, mais que le problème reste si monstrueux?
Mais la situation, enfin le problème, c'est aussi comment est-ce que ces jeunes décrocheurs, d'abord, c'est le problème, l'origine même du problème, c'est le décrochage lui-même. Quoi. Est-ce que il y a pas des choses à faire dans le système éducatif tel qu'il est pour essayer de prévenir et de diminuer, disons, le flux d'entrée des jeunes en décrochage. Et puis, bien sûr, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait ensuite dans l'accompagnement de ces jeunes vers les solutions innovantes. Et là, il faut réfléchir à la fois en quantité et en qualité.
Alors, Erwan Kézar, puis Jean-Claude Legrand.
Très pragmatiquement, sur les deux questions qu'on vient d'aborder, à savoir, premièrement, comment tirer parti des bonnes pratiques pour en faire des solutions un peu plus à l'échelle, disons. Je parlais tout à l'heure du programme gouvernemental de la grande école du numérique qui a, de mon point de vue et du point de vue de Simplon, fait de manière assez habile, c'est-à-dire qu'il y avait des expériences sur le terrain qui marchaient. Il y a aussi des choses qui marchaient moins bien. C'est-à-dire que nous, on a eu des échecs, des succès, tout ça, on tâchait toujours d'améliorer. Et à partir de cette observation-là, en mettant notamment des partenaires aussi de type employeur dans la boucle, le gouvernement a favorisé l'émergence de nouvelles formations gratuites et intensives au numérique avec une visée d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, ça fait qu'il y a tout un tas de formations sur tout le territoire qui font ça. Donc là, le côté, on va dire, inspiration à partir de solutions de terrain pour que ça se déploie plus largement en faisant confiance aux acteurs de terrain et en mettant dans la boucle les entreprises, les employeurs, c'est une chose. Deuxièmement, concernant le système éducatif, on s'est rendu, déjà, il y a des choses qui bougent. Nous, on parle de notre petite lorgnette du numérique. Voilà, le numérique arrive à l'école, etc. On va apprendre la programmation et des choses qui avancent. Mais aussi, on a eu l'occasion d'expérimenter avec l'Académie de Créteil, justement, un programme pour 15 jeunes décrocheurs en grande difficulté, qui, pour le coup, pour certains d'entre eux, n'avaient pas parlé à leurs parents depuis 2 mois. Enfin, une situation très difficile.
Plus personne.
On les a formés sur des choses qu'ils connaissaient, à savoir des drones, des interfaces web, avec un petit peu d'objets connectés, donc il y avait aussi de la bidouille, il y avait du code, il y avait de l'impression 3D, et surtout les deux formateurs, c'était Yacine et Mehdi, deux anciens élèves de Simplon, qui étaient salariés chez nous, et qui pour le coup pouvaient quelque part avoir légitimité dans la posture de leur apprendre ce qu'ils venaient d'apprendre eux-mêmes. Je parlais tout à l'heure de tutorat inversé, de reverse mentoring. Il y a vraiment énormément de choses à faire dans ce sens-là, et ce, notamment, de notre point de vue, pour pas remplacer, mais pour enrichir les entretiens d'embauche, les CV, les immersions avec des profils, la collaboration avec des profils pendant plus d'une heure sur des formats collaboratifs, on y croit vraiment parce qu'on constate au quotidien que ça marche.
Jean-Claude Legrand, il repasse au standard, s'il vous plaît.
En fait, je voulais vous remercier parce que c'est ce que vous avez dit dans votre introduction. Je vais vous dire pourquoi ça marche pas. Parce que ce qui intéresse ou ce que les médias pensent qui intéresse les gens, c'est de parler de violence policière, d'agression.
Mais il faut en parler quand ça arrive, mais c'est pas la totalité du sujet.
Mais par contre, c'est 100% du temps qui est consacré à ça. Combien de pourcent du temps est consacré à évoquer ce qui vient d'évoquer sur Simplon ou les initiatives dont je suis en train de vous parler? Pourquoi on parle pas plus du service civique? Je vais vous dire, parce que vous avez donné mon titre tout à l'heure qui est la diversité. La diversité, ça a été à la mode. Et plus c'est pas à la mode, mais ça doit pas être à la mode. Nous chez Laurel, on n'est pas dans des modes. On mène un travail de fond. Et moi, je vous dis tout de suite. Moi, je suis prêt à venir. On vient tous les deux, tous les jours, pour parler d'initiative. Mais ça n'intéresse pas, ça n'est pas vendeur. C'est ça le problème.
On fait une émission ce soir et on en fera d'autres d'ici le premier tour de la campagne présidentielle.
Faisons le plus possible.
En espérant que ce sujet émergera dans le débat. Emmanuel, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur Demorand.
Bienvenue.
Oui, merci. Je vous appelle pour témoigner d'un fait qui remonte à 2006. Donc, c'est un petit peu ancien, mais j'aimerais bien savoir quelle est la situation aujourd'hui, si vos invités sont un petit peu au courant de cela. Je vous résume, j'étais intérimaire comme vendeur par téléphone. Vous voyez, donc j'appelais des gens, je leur proposais des produits comestibles. Et donc, c'était en région parisienne, en banlieue. Mes collègues étaient divers, on était donc issus de cette diversité tous, et en fait, certains de mes collègues changeaient leur prénom. Mohamed se rebaptisait Pascal, Fatima se rebaptisait Isabelle, etc. Et à un moment, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais ça vous dérange pas de travailler comme ça, en vous présentant, en changeant d'identité finalement? Et ils m'avaient assuré que ça ne les dérangeait pas. Que ça les dérangeait pas, que c'était comme ça, qu'on leur avait pas imposé. Bon, ce que j'ai bien voulu croire. Hein. Après, le fait est-ce que eux-mêmes se sont auto finalement censurés quelque part pour être à même de faire leurs chiffres, parce qu'on subit une grosse pression dans ces boîtes pour faire du chiffre, ou est-ce qu'ils avaient discrètement, on leur suggérait de de se rebaptiser. Je n'en sais rien. Ça, je ne le sais pas.
Mmh. Merci voilà. Emmanuel pour cette question. On va tenter d'y répondre. Je donne la parole tout de suite à Fabien qui nous appelle de Lyon. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, Fabien.
Écoutez, je voulais témoigner par rapport justement à cette histoire de discrimination. En fait, du coup, moi, je suis issu d'immigration, enfin même immigré en France depuis plus de 20 ans. J'ai 33 ans, j'ai un doctorat dans la santé, et voyant qu'il était difficile de trouver du travail en France avec un doctorat, j'ai décidé de compléter ma formation avec une école de commerce dans laquelle je me suis formé sur pas mal de choses. Et en fait, de façon assez intéressante, c'est que j'ai remarqué que pour obtenir un stage, j'ai été le dernier de ma promotion à pouvoir en obtenir un. Et toutes mes requêtes auprès d'entreprises après ce stage-là, j'ai été embauché dans mon entreprise pendant 2 ans, ça s'est très bien passé. Et après, j'ai cherché du travail et j'ai mis plus d'un an à retrouver l'entreprise. En faisant, pour vous donner un ordre d'idée, je faisais entre 3 et 5 réponses aux candidatures spontanées. Réponse à des candidatures et 2 candidatures spontanées.
Et qu'est-ce qu'on vous disait, Fabien, ou comment en avez-vous déduit qu'il y avait un problème avec votre nom de famille?
Tout simplement, très clairement, dans ma promotion, j'étais le seul à avoir un nom à consonance orientale et j'étais le dernier à trouver. Mmh. Donc ça, déjà, je me suis posé des questions. Mais au-delà de ça, quand j'ai remarqué que je faisais entre 20 et 40 réponses à des candidatures par mois. Mmh. Et que j'avais rien en retour. Enfin, il y a un moment, on se pose des questions. Mmh. Surtout quand on a un bac plus 8 complété d'une école de commerce.
Oui, vous êtes surdiplômé et vous avez galéré pour trouver un emploi.
C'est ça. Je parle 2 langues couramment, j'en comprends 3 ou 4. Donc voilà, moi, ça me paraissait étrange.
Et aujourd'hui, vous travaillez normalement, sans problème?
Oui, je travaille normalement. Ouais, je travaille normalement, quasiment à mon niveau de diplôme. Mais voilà, je ne suis embauché que par des TPE. Mmh. Voilà, de façon étonnante, les grandes entreprises, pas de réponse, aucune. Voilà.
Merci beaucoup Fabien pour ce témoignage. Je le soumets à Yannick Lorty. La question du nom, du prénom, du nom de famille, etc. Deux témoignages qui vont dans le même sens.
Ces deux témoignages personnels ont hélas une vocation à être généralisés. Un grand nombre d'études qui utilisent la technologie du testing depuis maintenant une quinzaine d'années en France sur le marché du travail et aussi sur le marché du logement confirment que d'une part le patronyme et le prénom, qui surtout quand il signale bien sûr une origine étrangère, et aussi l'adresse, quand elle signale le fait de résider dans un quartier défavorisé, pénalisent les candidats à l'emploi, les candidats aussi à l'accès à un stage, et les candidats aussi à l'accès à un logement. Donc sur différents marchés, en fait, on a des traces, disons, extrêmement régulières. Dans toutes les campagnes de testing qui ont été menées en France sur ces différents marchés, on confirme qu'il y a des pénalités importantes subies par les personnes qui signalent par leur patronyme une origine maghrébine ou qui signalent par leur patronyme une origine d'Afrique de l'Ouest, et de façon concomitante et peut-être ajoutée, les personnes qui indiquent par leur lieu de résidence
qu'ils
sont dans un quartier politique.
Et ces gens-là, comme le disait Fabien, doivent envoyer 10 fois plus de lettres de motivation et 10 fois plus de CV que les autres.
Effectivement, la seule solution de leur point de vue,
c'est le pont aérien
de faire
de
davantage
CV,
d'efforts, de multiplier l'envoi de CV et donc de faire davantage d'efforts et dans tous les compartiments de leur vie.
Encore,
pas simplement sur l'accès à l'emploi ou à un stage ou l'accès à une formation, mais aussi sur l'accès au logement et sur d'autres.
Jean-Claude Legrand. Ou pire encore, comme il l'a évoqué, ce qui est la vérité, c'est de changer son nom, de changer son adresse pour tout simplement se faire passer pour un autre. Et donc vous évoquiez tout à l'heure, oui, il peut y avoir une forme d'autodiscrimination. Mais la réalité, c'est que quand vous nous demandiez tout à l'heure que peut faire l'État, il est simple, c'est ce qu'il est en train de faire. On en parle très peu. Hein, c'est effectivement, parce que c'est très important et c'est bien de signer des conventions, de prendre des accords, de mener tout ça avec des partenaires locaux. Mais c'est de rendre des comptes. Hein, et je pense que la puissance publique, c'est ça qu'elle a demandé. Mais il faut imaginer que, pendant qu'on évoque, hein, moi ça fait 10 ans que je me bats sur ces sujets-là, grâce et avec L'Oréal, pendant qu'on évoque ces sujets, aujourd'hui, les gens ont peur. Hein, quand vous voyez justement ce climat, vous disiez tout à l'heure à 60 jours, je sais pas mon objectif de commenter des sondages, mais les gens ils se disent qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pas être encore plus rejeté? Est-ce que je vais être pas encore plus discriminé? Donc c'est ça que nos sociétés travaillent, hein, c'est qu'effectivement on est de plus en plus, au lieu de collaborer ensemble et de se regarder dans les yeux, se rejeter les uns les autres. C'est ça le problème.
Erwan Kézar, Kézar c'est breton ou pas?
Non, Kézar c'est algérien et c'est marrant parce que je cherchais un logement dernièrement et pour le coup, mon prénom par contre est breton, breton irlandais, mais j'avais les papiers de la francisation du nom, du prénom de mon grand-père, tout ça, et ça fait longtemps que j'avais pas reparlé de ça. Coïncidence veut que. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que, en effet, envoyer 10 fois plus de CV, on a beaucoup d'apprenants et d'apprenantes à qui ça a pu arriver. En revanche, on se dit que deux de nos rôles, au-delà de faire de la formation professionnelle, c'est-à-dire de donner des compétences, de transmettre des compétences à des profils à fort potentiel, c'est premièrement de créer de la proximité, et je réinsiste un petit peu sur ces formats justement d'immersion, de collaboration, où on passe plus d'une heure.
Ça se passe comment? Parce que vous l'avez dit, vous passez du temps avec eux, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ces proximités-là dont vous parlez?
Je sais pas, on peut prendre l'exemple, c'est marrant parce qu'il y a eu tout un ensemble de top managers de chez L'Oréal, de 4 dirigeants par exemple.
Rien n'était préparé, hein, je peux préciser.
Non, mais allez-y, allez-y.
C'est vrai, non, mais c'était l'année dernière, qui sont venus justement pendant une demi-journée échanger avec les apprenantes et les apprenants. Regarder un peu ce que c'était que le code, mettre les doigts dedans, et qui pour le coup ont passé du temps avec ces profils-là, qui justement ont cassé cette vitre, ce mur de verre que peut-être le CV, avec tout ce qui peut refléter en termes de stéréotypes ou autre. Et deuxièmement, on croit aussi en le fait que, Simplon, on nous résume souvent comme une école réservée aux jeunes des quartiers. Ouais. Profil. Non, Simplon, c'est ouvert à tout public et notre objectif, c'est que chaque promotion aille de bac plus 8 à des gens qui n'ont pas le brevet des collèges, que ça aille de 18 à 58 ans, qu'il y ait tout type de milieu, de profil socio-culturel, socio-professionnel, socio-économique qui soit représenté pour justement que pendant 6 ans, au-delà de l'acquisition de compétences, ce soit un moment d'émancipation et surtout de cohésion sociale, d'augmentation de ses facultés de savoir-être parce qu'on se confronte à des profils qu'on n'aurait jamais croisés autrement.
Allez, au standard, c'est Joël qui nous attend. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir. Je vous remercie pour vos émissions.
Merci à vous.
Et recevoir mon appel. Voilà. Eh bien, moi, je suis... J'étais entrepreneur thermicien en équipement industriel. Et donc, j'avais une petite entreprise artisanale. Et donc, j'ai accueilli un jeune, Kamel, qui venait de la banlieue de Limoges. Bon, bien sûr, c'est pas la banlieue parisienne, mais c'est quand même une banlieue un peu défavorisée, bien sûr. Et ce jeune a fait son stage chez moi, comme il était en formation à la FPA. Ensuite, je lui ai proposé de faire, comme je voyais qu'il tenait bien la route, de faire un BTS de technicien en maintenance thermique, ce qu'il a fait pendant 2 ans. Ensuite, il est revenu me voir. Et comme je devais prendre ma retraite, je lui ai proposé de reprendre mon entreprise. Je l'ai accompagné pendant 6 mois auprès de la clientèle. Il a été très très bien perçu parce qu'il travaillait très bien. Et donc, après, je lui ai dit, vas-y, tu peux y aller, tu peux te mettre à ton compte. Il s'est mis à son compte, il a repris mon entreprise, ma clientèle, tout ça gratuitement. J'ai demandé aucune indemnité. Et donc, il a gardé à peu près 90% de ma clientèle. Il travaille très bien. Il a un carnet de commandes, enfin, un carnet d'intervention plein. Et puis, j'ai lié amitié avec lui, avec ses parents. Alors lui, il est deuxième génération d'immigrés. Moi, je suis fils d'immigrés italiens. Et je vois que, dans les banlieues, il y a des gars qui tiennent bien la route, qui ont conscience de leur avenir et qui ont vraiment envie de réussir.
Ouais, et qui ont du mal, parfois, à rentrer sur le marché du travail. Donc, on voit bien, Joël, merci beaucoup pour votre intervention, le rôle de l'accompagnement aussi, une fois qu'on entre dans l'entreprise comme stagiaire.
De la confiance, de tendre la main à l'autre.
Voilà, et puis pouvoir refaire des études après, ce sont des éléments importants, ça, de pouvoir se remettre le pied à l'étrier à partir d'un stage.
D'où une initiative dont on ne parle pas assez, je trouve, en France, avec un autre héros, qui est par exemple l'Institut de l'engagement, le service civique. C'est fantastique. Nous, ça nous a permis de recruter des gens très différent, incroyable. Dans ce monde qui est en train de se transformer, dont tout le monde a peur, bien sûr qu'on a besoin du numérique plus que jamais, mais on a surtout besoin plus que jamais de partager, d'échanger et d'avoir des équipes diverses. Hein, souvent, quand on me demande pourquoi nous, c'est pas la mode, l'oral et la diversité, parce que la diversité, c'est une valeur cardinale du monde dans lequel on va aller. Hein, si on est tous les mêmes, clonés en se ressemblant, on va pas pouvoir inventer les solutions. Et c'est ça, un des problèmes de cette campagne, c'est que les gens ont les mêmes idées, se racontent les mêmes histoires. Plus personne n'en veut.
Yannick Lorty.
Non, c'est évidemment très bien d'entendre cette histoire positive avec un ensemble d'étapes franchies avec succès. Mais c'est une histoire qui, hélas, c'est extrêmement singulière. On est, de façon générale, on parle du problème des banlieues ou des quartiers avec beaucoup trop de mots qui tiennent un registre négatif. Et donc, il est important de positiver les situations. Mais en même temps, il faut pas être béni oui-oui. Enfin, il est clair que il y a des problèmes réels d'obstacles à l'emploi et de discrimination à l'encontre de l'origine ou à l'encontre du lieu de résidence, qui sont des phénomènes réels et qui donc doivent à la fois être prévenus par des actions de sensibilisation menées par les entreprises privées et aussi menées par le public, et sans doute aussi par un rappel au droit qui doit être peut-être plus musclé dans certains cas.
Merci à tous les trois en tout cas pour cette première émission sur le sujet. Il nous semblait important de la faire en ce moment. Yannick Lorty, merci beaucoup. Professeur d'économie à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée, directeur de la Fédération de recherche du CNRS, travail, emploi, politique publique. Jean-Claude Legrand, directeur de la diversité pour le groupe L'Oréal, et Erwan Kézar, cofondateur de l'école Simplon. Merci amis auditeurs d'Inter d'être intervenus ce soir.